Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquin, assisté de Marie-Françoise. Cette émission est diffusée en direct le lundi 26 novembre de 18h à 21h, en différé le mardi 27 novembre dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Claudio. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Bonsoir chers auditeurs qui nous écoutez en direct, bonjour à ceux qui nous écouteront demain matin et bonne nuit à ceux qui nous écouteront à partir de 2h du matin. Bonjour à ceux qui nous écouteront demain matin, pardon, à partir de 7h30. Nous avons un ordre du jour extrêmement chargé, Marie-Françoise, hein,
oui.
Extrêmement chargé, avec des invités de grande qualité, bien sûr, comme toujours, mais spécialement de qualité spécialement grande. Et nous allons parler de sujets grands et forts, et d'un sujet historique très beau. D'abord, dans la première partie, nous allons répondre à la question « Peut-il y avoir un islam de France ?» Dans la deuxième partie, après la chronique du Grand Large de Patrick Simon, qui sera consacrée aux grèves de novembre 2007... Nous allons faire le bilan de ces grèves et nous évoquerons pour finir, peut-être pour nous aérer, c'est le cas de le dire, la légende de Mermoz. Donc première partie, peut-il y avoir l'islam de France ? Nous recevons, Marie-Françoise et moi, des penseurs de l'islam, si je peux dire, enfin plutôt des penseurs sur l'islam, même pas des penseurs de l'islam, qui ont écrit au sujet de l'islam et qui, dans les écrits, font autorité auprès du moins des gens de bonne foi. Et un praticien de la lutte contre l'islamisation de la France, qui est Jean-Noël Audibert. Alors je nomme d'abord Anne-Marie Delcambre, qui est universitaire, qui est écrivain, et qui est bien connue pour ses ouvrages sur l'islam, ses ouvrages sans concession. Et elle vient d'écrire un livre tout à fait passionnant, « Soufi ou Moufti, quel avenir pour l'islam ?» aux éditions... comment prononce-t-on
de...
Dekelbauer. Voilà. Qui se présente d'ailleurs comme un dialogue avec un néoconservateur américain nommé Daniel Pipes. Et je crois que la riposte que vous lui donnez est excellente. Et vous expliquerez bien sûr le titre, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un soufi, ni ce que c'est qu'un moufti. Je dois dire que, Jean-Noël Audibert, je ne vous ai pas encore présenté, mais vous avez lu le livre précédent de Madame Delcambre. Je pense qu'il faudrait que vous évoquiez aussi ce livre à propos de notre débat. Également avec nous, René Marchand, journaliste, écrivain. Alors, rappelez-nous les titres de vos différents ouvrages. Le dernier, c'était sur Mahomet, je crois.
Oui, Mahomet contre enquête.
Bon.
Et précédemment, je l'ai écrit « La France en danger d'islam ».
Voilà, alors c'est plutôt le dernier...
Les deux, vous savez, c'est...
Bah oui, mais la contre-enquête, ça c'est l'histoire de l'islam. Bon, enfin, nous verrons.
Mais pour comprendre l'islam contemporain, il faut remonter aux sources obligatoirement.
Bien, et ensuite, monsieur Joachim Veliokas, qui est directeur de l'Observatoire de l'islamisation, et qui a écrit une somme intitulée « L'islamisation de la France », et qui est édité chez Godefroy de Bouillon. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur de Lesquin. Bonjour aux éditeurs.
Et bonsoir aux éditeurs aussi.
Bonsoir aux éditeurs.
Alors, nous allons parler de ce sujet. J'aimerais peut-être que Anne-Marie Delcambre nous explique d'abord pourquoi elle oppose cet islam de ces deux islams. Mais avant peut-être de lui donner la parole, je voudrais lui demander, de demander à tous nos amis si l'actualité n'apporte pas une réponse à notre débat qui pourrait être théorique. Je lis dans le journal de ce matin, par exemple le Parisien, Villiers-le-Bel en état de siège. Alors Villiers-le-Bel, ça n'a rien à voir évidemment avec le député de la Vendée. Hein. C'est une commune qui se trouve à côté de Sarcelles, qui malgré son nom ne semble pas être peuplée d'une majorité de Français de souche. Et je lis donc, hier après-midi, Mouchine et Larami, deux adolescents qui circulaient sans casque au guidon d'une petite moto volée d'ailleurs, ont percuté une voiture de police en violant une priorité. Ils sont morts tous les deux. Et immédiatement, la situation a dégénéré. Le commissaire du district de Sarcelles a été blessé. le maire de Sarcelles, le Villers-le-Bel, a été obligé de se réfugier chez un ami, il a fui devant les émeutiers, et la population a pris fait et cause pour ces deux accidentés, en se livrant à des dégradations et des violences extrêmement furieuses. Et le journal rapporte ces propos d'un des frères de la victime qui dit « Ah oui, mais ce n'est pas de la violence, c'est de la rage. » Parce qu'il semble que dans le vocabulaire de ces gens-là, la violence soit mal, mais que la rage soit bien, parce qu'on se venge de la société. Alors, on peut me dire, évidemment, cela n'a rien à voir avec l'islam. Je pense que ça, d'une certaine manière, ça a quelque chose à voir. Il est aussi faux de dire que ça n'a rien à voir avec l'islam, que c'est que ces émeutes n'ont rien à voir avec l'islam, que de dire que les grèves n'ont rien à voir avec le communisme. Car, cher René Marchand, vous êtes le premier à le dire, l'islam n'est pas simplement une religion, c'est beaucoup plus que cela.
Oui, l'islam religion, je vous le dis très clairement, c'est le cheval de Troie des gens qui ont comme objectif d'islamiser la France. Parce que dès lors qu'on dit religion, pour nous, ça veut dire premièrement sphère privée, deuxièmement, liberté de conscience, deux notions qui n'existent pas en islam. Et ça veut dire aussi distinction du religieux et du politique. Mais à propos des émeutes, je voudrais faire une remarque sur un point de détail qui me paraît très important. Vous avez donné les noms de ces deux jeunes gens, qui sont vraisemblablement nés en France.
Ils étaient dans la presse. Hein.
Oui. Il y a 50 ans, ils se seraient appelés Roger ou Antoine ou Maurice. Or, faut savoir que les musulmans qui ont comme objectif d'islamiser la France se sont donné comme un des premiers objectifs les prénoms. Et actuellement, un musulman ne peut plus donner à ses enfants un prénom qui ne soit pas musulman. Donc ils ont gagné la bataille du prénom. Ils en ont gagné d'autres, ils ont gagné la bataille du voile, la bataille des mosquées, ils sont en train de gagner la bataille du ramadan. Tout ça, c'est les étapes de l'islamisation. C'était un point de détail, mais je pense qu'il est assez révélateur de ce qui se passe.
Mohamed, premier nom dans les maternités de Saint-Denis depuis 2003, il faut le savoir quand même. Et vous parliez de l'Aïd el-Kébir, il faut savoir qu'il y a des circulaires de l'éducation nationale qui recommandent aux professeurs de fermer les yeux sur l'absentéisme lors de l'Aïd el-Kébir, c'est-à-dire de le reconnaître en fait de fait.
Oui, et vous savez que le ramadan, c'est certes un jeûne à finalité religieuse, spirituelle, je veux bien, mais c'est surtout un fantastique moyen pour détecter les mauvais musulmans. Et il a été donné une information dans le Figaro, en une ligne et demie, c'est passé pratiquement inaperçu. Cette année, pour la première fois, à Ramallah, siège de l'autorité palestinienne, censée être laïque et nationaliste, eh bien, il y avait une police religieuse pour surveiller l'observation du ramadan. Et chez nous, l'observation du ramadan, vous le confirmez, cher ami, est en route.
Alors, je voudrais compléter.
Laissez-moi peut-être faire une observation à propos de ce que vient de dire René Marchand, cher ami Villiocas. Je me réfère non pas au Figaro ou au Parisien, mais cette fois-ci au journal 13 du 3 octobre 2007, qui nous cite Monsieur Nicolas Sarkozy, président de la République, l'islam de France avance. L'islam de France avance. Car Nicolas Sarkozy s'est rendu lundi soir, donc c'était en octobre, le lundi 1er octobre, à la Grande Mosquée de Paris, pour célébrer avec les musulmans la rupture du jeûne imposé par le ramadan, l'iftar en langage d'initié. Premier président de la République à participer à l'iftar. Chers auditeurs, Nicolas Sarkozy est le premier président de la République à participer à l'iftar. En présence du directeur de la Grande Mosquée d'Ali Boubacar, il a déclaré pour s'en féliciter « L'islam de France avance ». Et l'auteur de l'article, Jean Cochet, ajoute, flanqué de sa secrétaire d'État à la ville, Fadela Amara. Fadela Amara, SOS raciste, Parti socialiste. Sarkozy a observé, même au gouvernement, certains s'obligent au jeûne du ramadan. Et de se réjouir. C'est important pour moi que Fadela soit membre du gouvernement, comme Rachida Dati en tant que garde des Sceaux. Cette proximité illustre du sommet à la base de notre société et la place de l'islam comme composante intime de notre pays. Commentaire de Jean Cochet, du sommet à la base de la société française, l'islam en effet s'installe, toujours plus conquérant, toujours plus exigeant. Et la France est priée par ceux qui en ont actuellement la charge de partager intimement sa litière. Lundi, le chef de l'État, lundi donc le 1er octobre 2007, le chef de l'État, M. Nicolas Sarkozy, a aussi lancé, en songeant sans doute aux électeurs nationaux, je pense que Jean Cochet vous parlait des anciens électeurs de Jean-Marie Le Pen et du Front National, qui ont voté pour lui en masse à la dernière présidentielle, citation de Nicolas Sarkozy, « N'en déplaise à quelques-uns que je combats, l'islam c'est aussi la France ». Alors, Madame Delcambre, comment réagissez-vous à ces propos de Nicolas Sarkozy ?
Très mal. Très mal, parce que je pense que Sarkozy, qui doit avoir un fantasme, celui d'être le grand imam de la France, va nous emmener vraiment dans le mur. Parce qu'il bénéficie d'une certaine confiance et il adore avoir l'admiration, c'est de la vérité, des musulmans. Et il va y aller vraiment, mais sans aucune mesure. Et je le redoute, je le combats, je sais que pour certains il donne le change, mais pour moi pas du tout. Je pense que c'est un communautariste qui va faire avancer l'islamisation comme personne ne l'aurait fait avancer. Parce qu'il y va, c'est un avocat habile, c'est un bon camelot, c'est un battleur, il parle bien, il vendrait du vent. Je sais pas, j'ai écouté ses discours, même les gens qui doivent mourir ne mourront pas. C'est extraordinaire. Franchement, pour moi, c'est un mystère, cet homme. Que des boniments comme ceux qu'il débite soient crus par les Français. Et je vous assure, j'ai écouté une émission de Bernard-Henri Lévy, Jean-François Kahn et quelqu'un que j'aime pourtant bien, c'est-à-dire Yvan Rioufol. Yvan Rioufol, qui est persuadé que j'ai raison, parce qu'il m'en a félicité, il ne disait trop rien devant ces deux hommes qui étaient unis par une sorte de gauche laïque, droit de l'homiste, et dont le principal ennemi n'est pas l'islam. Il préférerait laisser la France à des imams plutôt qu'à des curés. Et c'est ça que je trouve absolument scandaleux. La France, comme la Belgique, a un ennemi, ce n'est pas l'islam. C'est le catholicisme traditionnel.
Pour eux, pas pour vous.
Non, je dis pour eux.
Oui, pour eux.
Pour lequel ils vouent une haine. C'est-à-dire, moi je pose la question, est-ce que vraiment vous pensez que quelqu'un comme De Villiers peut aller menacer les gens, les juifs orthodoxes? Est-ce qu'il y en a, De Villiers va donner un coup de couteau à un juif qui se promènerait dans la rue? Pas du tout. Et pourtant, vous avez entendu Bernard-Henri Lévy dire... Je sens mal cette droite nationaliste. C'est assez curieux. Et ces gens-là soutiennent Sarkozy et vont faire avancer l'islamisation à une vitesse grand V.
Je ne comprends pas très bien le coup de couteau à Philippe de Villiers. Mais...
Ce que je veux dire, c'est que au lieu, ils voient toujours l'ennemi comme étant l'extrême droite.
Bernard-Henri Lévy.
Oui, Bernard-Henri Lévy.
On en parle assez dans les médias ordinaires. Franchement, laissons tomber. Monsieur Lévy est un homme parfaitement méprisable, je tiens à le dire hautement. Et donc, il a écrit des choses...
Oui, mais Sarkozy...
Son pays, qui sont parfaitement méprisables, et donc il faut le laisser au mépris qu'il mérite.
Voilà. Ceci dit, oui, mais Sarkozy s'appuie sur toutes ces personnes qui sont, du point de vue médiatique, très connues. Nous ne pouvons pas parler.
Alors, ce que nous devons faire comprendre aux auditeurs, c'est qu'on ne peut pas être à la fois... un admirateur de Jean-Marie Le Pen, en supposant que l'auditeur soit admirateur de Jean-Marie Le Pen, et de Fadela Amara, qui est le ministre de Sarkozy. Il faut choisir. Si on est pour Fadela Amara et la politique qu'elle veut mettre en œuvre, qui est une politique de communautarisme, on ne peut pas vouloir une politique nationale. Monsieur Veliokaz, vous aviez un propos rentré.
Oui, pour en revenir à l'Aïd el-Kébir, parce que je crois que c'est très intéressant. Cette période du Ramadan, moi j'étais dans une école où 70% des élèves étaient musulmans. En voyage d'études, j'avais de très bons rapports d'ailleurs avec eux, en voyage d'études, il s'est avéré qu'on partageait le même hôtel et qu'un mois avant le Ramadan, je me suis trouvé avec eux et je les ai surpris en train, tout simplement, entre copains, de manger un peu de saucisson, de boire un verre de vin.
Plutôt sympathique.
Alors,
tout à fait sympathique.
Moi, un petit peu blagueur, je leur dis attention, les amis, il y a la police religieuse dans le couloir.
Ce n'est pas halal, c'est harem.
Exactement.
Haram. Excusez-moi, je parle en arabe.
Ils m'ont dit, mais écoute, Joachim, mais nous ne sommes pas musulmans. Tu sais, l'islam, pour nous, on a vraiment d'autres priorités dans la vie. Mais quand est arrivé le Ramadan, un mois plus tard, ces mêmes personnes qui me tenaient ce discours ont fait le Ramadan. Parce que toute la classe faisait le Ramadan. Et il y a un système de surveillance horizontale en islam, qui est un peu l'apanage de tous les totalitarismes. dont ils n'ont pas pu s'extraire.
Un système alors, croisé,
alors,
vertical.
Vous écoutiez, chers auditeurs de Radio Courtoisie, M. Joachim Veliokas, auteur de l'islamisation de la France. Mais j'aimerais que Jean-Noël Audibert, que je n'ai même pas encore présenté, qui est donc ingénieur de formation.
Bonsoir à tous.
Conseiller municipal de Versailles, nous dit ce qu'il a pensé, non pas du dernier livre de Mme Cambre, mais du précédent, Les interdits de l'islam.
Écoutez, je vais d'abord revenir sur le CFCM. Il faut quand même garder à l'esprit que c'est Nicolas Sarkozy.
C'est le français du culte musulman.
C'est Nicolas Sarkozy qui a mis en place ce CFCM et qu'il a totalement reculé. C'est-à-dire que dans les accords du CFCM, les musulmans, l'islam de France, ne reconnaissent pas du tout la validité de nos lois. C'est quand même un point extraordinaire. D'autre part, c'est Nicolas Sarkozy qui a lancé à travers la Caisse des dépôts et consignations, le financement des mosquées sur fonds publics. Dernier point, dans un entretien privé, Sarkozy a indiqué que finalement, les barbus dans les banlieues, c'était bien, ça permettait de garder un certain calme, une certaine sérénité. Donc Sarkozy, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, il va continuer en tant que président de la République, a sous-traité l'ordre dans les banlieues aux barbus. C'est quand même extrêmement grave, cette démission de l'État.
Beaucoup d'élus locaux l'ont fait, et je dois dire qu'à cet égard, M. Jean-Marie Le Pen n'est pas exempt de tout péché.
Alors, revenons à la question initiale. Islam de France, bon, chacun sait qu'il y a des musulmans en France, mais le français est une langue extrêmement précise, et les prépositions françaises sont remplies de charme, parce qu'elles sont complexes. Donc il y a une différence entre un islam en France et un islam de France. Qui est un islam en France, qu'on s'en félicite ou qu'on le déplore, c'est un fait, au moins actuellement. Nous rappellerons peut-être, si nous en avons le temps, l'histoire de l'islam en Europe, qui a été fait de flux et de reflux, avec toutes les reconquistas qui ont eu lieu, pas seulement en Espagne. Mais la question est de savoir s'il peut y avoir un islam de France, donc si l'islam peut être compatible avec l'identité nationale de la France, si l'islam peut être compatible avec l'Occident, avec la chrétienté, avec le christianisme, avec les droits de l'homme, avec la République. Nous aurons d'ailleurs tout à l'heure M. Lagartempe, qui a écrit un livre sur l'islam et la République, ou l'islam contre la République, qui nous dira ce qu'il en pense par téléphone. Cher M. Marchand, non, vous voulez intervenir sur le sujet, donc...
Oui. Excusez-moi, monsieur Marchand. Parce que là, il y a quelque chose de très important à pointer. Nicolas Sarkozy nous avait promis qu'il ferait un islam dégagé des puissances étrangères. Je vous cite Nicolas Sarkozy le 5 octobre 2002 à la mosquée de Paris. Il ne faut pas non plus que l'islam de France soit dirigé par des puissances étrangères. Les musulmans de France n'ont nul besoin de voir leur liberté de croire, de pratiquer, de prier, mise sous tutelle de qui que cela soit.
Monsieur Benoît, je préfère que nous parlions d'abord de l'islam en lui-même.
Excusez-moi, j'en ai pour 20 secondes. Il faut savoir que la Grande Mosquée de Paris est une institution de l'Algérie, que 60% des imams de l'Algérie, des imams de la Grande Mosquée de Paris sont payés par l'Algérie.
Voilà, j'ai bien dit que vous aviez deux sujets en un. L'islam est-il compatible est une chose, et l'islamisation est en aide à un deuxième. Alors, sur le premier sujet... L'islam est-il compatible ? J'aimerais bien que M. Marchand, qui a des thèses extrêmement précises sur le sujet, commence, oui. Et puis que peut-être ensuite, Mme Lagartempe...
D'abord, il faut se poser les questions. Est-ce qu'il est possible de faire naître en France un islam qui soit conforme aux lois de la République ? C'est-à-dire un islam qui fasse la différence entre la religion et le politique, entre la loi et la religion ? C'est totalement utopique à l'époque où il y a 23 chaînes qui desservent la France à partir des pays musulmans. On ne peut pas isoler la France de l'ensemble du monde musulman. Je ne vois pas comment on pourrait créer une espèce de muraille autour de la France pour créer cet islam. Premièrement.
Vous pensez que si on isolait l'islam de France...
Non, attendez.
Vous êtes tout convaincu.
Mais non, mais à supposer... À supposer qu'on isole un islam selon nos voeux, selon les définitions d'une religion du XXe siècle, ça ne peut pas exister. Madame Delcambre l'a démontré dans l'islam des interdits. Et troisièmement, à supposer encore qu'on arrive à le créer, eh bien ce ne serait qu'une étape vers l'islamisation radicale. Pourquoi ? Parce que la dynamique de l'islam, et ça c'est difficile à comprendre pour nous, est involutive. C'est-à-dire que l'islam ne va pas ne s'éloigne pas de son passé, il retourne constamment à son passé, à ses fondamentaux. Donc l'islam de France, c'est une stupidité extrêmement dangereuse.
Il faut le démontrer à des gens qui connaissent moins bien l'islam que vous, cher René Marchand. Alors, je crois qu'il faut partir de cette affirmation, qu'il faut démontrer, que l'islam est une théocratie qui ne connaît pas la distinction entre la religion et la politique, et que l'islam, c'est à la fois une religion et une politique.
Anne-Marie Delcambre, on va vous le démontrer très facilement, je suis sûr.
C'est-à-dire que moi, je pense que l'erreur vient qu'on ne s'entend pas sur les mots. C'est-à-dire que quand on dit religion en France, ça a une certaine acception. C'est-à-dire religion individuelle, spiritualité, liberté d'en sortir, liberté d'y entrer, etc. En islam, non. En islam, on peut y entrer facilement, mais on n'en sort pas. L'apostasie, on ne peut pas changer de religion. Et en islam, le droit est très, très important. Or, qu'est-ce qui se passe actuellement? Nous avons des charlots en France qui sont en train de nous dire « Mais l'islam, c'est quelque chose qui sort de leur esprit. L'islam, c'est paix et tolérance. L'islam, c'est une sorte de christianisme oriental. » Et les gens gobent cela parce que les gens raisonnent par analogie. Il y a des gens, des théoriciens, dits en quelque sorte idéologues éclairés, qui présentent un islam qui n'a jamais existé. Un islam qu'ils inventent, un islam laïque ou un islam christianisé, selon le... un islam à la carte. C'est un peu... Et c'est ça qui est grave, c'est que sous cet islam à la carte, les gens vont dire, oui, d'accord, pourquoi pas islam plus que catholicisme ou plus que protestantisme. Mais c'est se tromper, enfin tromper les gens sur les étiquettes. L'islam, c'est pas seulement une foi. C'est aussi une loi. Et le droit musulman, pour le vrai croyant, c'est la théologie appliquée, c'est l'orthopraxie. Et ça, les gens ne savent pas. Donc ils se disent, pourquoi pas l'islam? À Toulon, j'ai vu des convertis à l'islam, qui étaient avant catholiques, et qui pensaient qu'ils allaient trouver la version orientale du christianisme. Ils ont lu l'islam des interdits, ils ont dit, on va aller tuer l'imam. J'ai dit, attendez que je sois sorti de Toulon avant de le faire. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a une sorte d'abus de confiance sur les mots. Les mots n'ont pas la même acception.
Je vais demander peut-être, alors, à un de vos lecteurs, à un de vos admirateurs, qui est donc Jean-Noël Audibert, ici présent,
c'est bien.
De faire un compte-rendu sous votre contrôle de votre livre L'Islam des interdits, et vous corrigerez... j'espère que vous ne le rabrouerez pas.
Je lui mettrai une note.
Non, mais attendez, non, vous n'êtes pas en classe. Jean-Noël Audibert.
Oui, j'ai lu il y a 2 ans votre ouvrage « L'islam des interdits » qui est paru en 2003. J'en ai fait personnellement une recension et diffusé à une commission qui travaillait sur le sujet de l'islam. Moi, il y a une phrase qui m'a marqué, que j'avais trouvée absolument extraordinaire. Vous avez écrit, c'était en page 11 de l'édition, « Au risque de choquer, il faut avoir le courage de dire que l'intégrisme n'est pas la maladie de l'islam, il est l'intégralité de l'islam. »
Alors, je vous interromps parce que je me rappelle une phrase qui m'avait beaucoup frappé, d'Henri de Labatide. Henri de Labatide, qui est mort aujourd'hui depuis au moins 10 ans, était un islamologue, enfin était un spécialiste du Maghreb en réalité. Il présidait l'Institut des langues orientales, c'était quand même pas rien. Bon. Il a écrit un très beau livre que je conseille aux auditeurs qui s'appelle « Les 4 voyages » par référence à un ouvrage mystique d'un soufi, justement, d'un musulman dont j'ai oublié le nom. Et Henri de Bathilde l'avait invité au Club de l'Horloge pour parler d'islam, justement. Il nous avait dit, et il m'avait dit ensuite, il m'avait répété, que, vous savez, à l'époque on parlait plus d'intégrisme que d'islamisme en France. Hein. Il me dit, vous savez, les gens parlent d'intégrisme. L'intégrisme, c'est le véritable islam. Et c'était Henri de Labatide qui le disait, l'intégrisme c'est le véritable islam. Voilà, et je vous rends la parole.
Taslim al-Nasrin, si vous permettez, Taslim al-Nasrin, qui a été condamné à mort, a dit cette phrase qui aussi résume tout. Elle a dit, le problème ce n'est pas l'islamisme, c'est l'islam tout entier.
Alors écoutez, puisque nous sommes dans les parenthèses, j'ajoute que le Club de l'Horloge a donné le prix de la désinformation scientifique à un certain Gilles Kepel, parce qu'il abondait dans le sens... Il prétendait distinguer l'islamisme de l'islam, comme si l'islam... Ce qui est d'ailleurs bizarre, quand on parle de christianisme, c'est la religion chrétienne. L'islamisme, ça devrait désigner la religion musulmane. Bien, on veut distinguer l'islamisme qui serait mal, l'islam qui serait bien.
C'est une construction très récente. Ouais. C'est Bruno Etienne qui a lancé cette différenciation entre l'islamisme et Kepel aussi.
C'est une création linguistique de l'Occident, le mot islamisme.
Je rends la parole à Jean-Noël Audibert.
Oui, donc à partir de votre livre très intéressant, L'Islam des interdits, j'ai voulu traiter la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Et après l'avoir passé au peigne fin, voilà les conclusions auxquelles j'étais arrivé. Liberté, vous venez de l'évoquer, il n'y a pas possibilité de sortir de l'islam. Celui qui apostasie l'islam est puni de la peine de mort. Égalité, on parlait tout à l'heure du droit musulman, il n'y a rien de plus inégalitaire que le droit musulman. Pour trois raisons. L'homme est supérieur à la femme. Le musulman est au-dessus du non-musulman. Et le croyant est au-dessus de l'athée. Et l'homme libre est au-dessus de l'esclave. Donc c'est une religion qui est profondément inégalitaire. D'autant plus qu'il y a mélange de la religion, du droit, de la vie de tous les jours, droit civil, droit pénal. D'autre part, pour un musulman, un autre musulman est son frère. C'est la notion de l'Oumma, c'est l'ensemble des croyants, c'est une notion transnationale. Mais un musulman n'a pas pour frère un athée, un juif ou un chrétien. Donc il y a vraiment incompatibilité. Et là, je me permets de dénoncer ce que j'appelle, peut-être un peu par simplification, l'islam RATP, c'est-à-dire l'islam que l'on essaye de nous vendre en tant que religion d'amour, de tolérance et de paix.
Et religion, et il y a autre chose qu'il faut dénoncer, je crois, très vigoureusement, c'est la fichaise sur les enfants d'Abraham et les trois monothéismes. Ça, c'est M. Massignon, qui était un immense savant et un parfait crétin. Immense savant, difficile à lire.
Al-Hajj, un livre
passionnant. Oui, mais il était, moi je l'ai connu à cause de mon grand âge. Je l'ai vu surtout dormir au jury d'Agrègue, mais c'était un crétin total, un illuminé. Et quand on parle des trois monothéismes, il faut savoir que pour un musulman, le christianisme n'est pas un monothéisme. Nous sommes des associateurs, mouchriques.
C'est-à-dire,
nous sommes, ça donc, cessons de faire cette espèce d'amalgame entre le christianisme, que dénonçait Anne-Marie Delcambre, entre le christianisme et l'islam. Ça n'a strictement rien à voir. Nous sommes à l'opposé.
Alors, islam des interdits, je voudrais rappeler que l'un des commandements de l'islam, et même l'un des principaux, c'est commander le bien et interdire le mal. C'est-à-dire que l'islam est totalitaire. L'islam, le commandement de l'islam, l'obligation de l'islam, c'est que chacun doit surveiller son voisin. L'islam est un puritanisme accentué. Chacun doit surveiller son voisin, essayer de savoir ce qui se passe chez lui, et le condamner et le réprimer s'il n'obéit pas à la loi islamique.
Oui.
Et c'est pour ça qu'il est au-delà même de l'apostasie, c'est le péché par rapport à la charia, à la loi islamique, qui est constamment...
C'est ce que notre ami Veliokas appelait le contrôle horizontal, qui se double d'un contrôle vertical par des gens qui ne sont pas un clergé, donc qui n'ont pas un statut qui les protège du pouvoir politique, et qui sont tous ces hommes qu'on appelle moufti, qu'on appelle imam, etc., qui constituent une police religieuse, politique, puisque les deux ne sont pas dissociables. Une police totale.
Veuillez m'excuser, mais par rapport à l'islam de France, nous avons un principe chez nous de ne pas s'occuper des affaires des autres. C'est radicalement opposé à cette surveillance, c'est-à-dire que le croyant, un muslim, ahoul muslim, le musulman et le frère du musulman, il doit surveiller son frère. Voilà. D'abord, l'avertir par la langue, etc. Et à la fin, si vraiment il est coriace, quitte à lui donner un bon petit coup de bâton sur la tête. Non, je veux dire qu'il a le devoir, et il y a Al-Razali qui cite les faits suivants. Si quelqu'un se promène dans la rue et entend de la musique, par exemple au troisième étage, il doit se précipiter dans l'escalier et faire cesser ce scandale.
Ghazali, c'est le philosophe qui a écrit, le théologien qui a écrit
La réputation
de la philosophie.
Tout à fait.
Le grand, le 17e siècle.
Mais ce que je voulais dire aussi, pour rester dans ce sujet, là je crois que nous sommes au cœur de quelque chose de très important. Vous avez dit, cher Henri de Lesquin, que les mots ont un sens. Or, il y a un mot...
Ils en ont plusieurs.
Non, mais je veux dire qu'il faut que les mots aient un sens, et il y a un mot qui est très très important, c'est le mot « culte ». Conseil français du culte musulman.
Ce point précis, c'est que, justement, Wilfredo Pareto a insisté, et je crois qu'il faut toujours avoir dans l'esprit cette remarque, que grande partie des débats qui tournent en rond, viennent du fait que les gens, les interlocuteurs ne prennent pas les mêmes mots dans le même sens.
Et là, vous avez deux systèmes linguistiques qui ne se recouvrent pas, qui sont le système sémitique et le système indo-européen.
Avec la volonté de tromper la technique. Bon, nous en parlons tout à l'heure.
Si vous permettez, je voudrais insister sur le culte. Car on nous a parlé du culte. Ça ne veut rien dire en islam. Oui, rien.
Vous allez le dire après, prenez des notes, parce que je voudrais que Marie-Françoise donne la parole aux auditeurs. Là, je vous rappelle la règle du jeu. Marie-Françoise va lire tous les messages à la suite et à la fin, vous répondrez globalement ou en partie, comme vous voulez.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquin qui reçoit aujourd'hui Jean-Noël Audibert, conseiller municipal de Versailles, Anne-Marie Delcambre, universitaire écrivain, René Marchand, journaliste écrivain, Joachim Veliot-Cas, écrivain et directeur de l'Observatoire de l'islamisation. Un auditeur. Je suis un habitant de Villiers-le-Bel et j'ai entendu Monsieur de Lesquin dire que la population de cette ville a défilé. Ce qu'il faut dire, c'est qu'une partie de la population a défilé. Peut-être y avait-il une centaine de personnes au maximum. D'ailleurs, après les incendies de voitures, les pompiers sont intervenus tardivement. Je suis donc un témoin qui s'est bien gardé d'intervenir en voyant ces hordes de voyous comme la majorité des habitants. Un auditeur. Que vous preniez les documentaires d'Élise Lucet, Benoît Duquesne, une télé en noir et blanc suffit. Un auditeur, hier dans la nuit, j'ai écouté les titres d'une radio, Villiers-le-Bel, des policiers heurtent une moto et tuent deux jeunes. Il n'était même pas précisé que les jeunes étaient sans casque, ce qu'aurait pu supposer déjà un partage des risques. J'ai téléphoné à la présidence de cette radio qui m'a renvoyé aux relations auditeurs, un répondeur qui ne fonctionnait pas. Une auditrice, le général de Gaulle a écrit dans un de ses ouvrages une phrase sur l'immigration, précisant qu'il n'était pas hostile à l'immigration, mais qu'il y avait un seuil de tolérance à ne pas franchir. Pourrait-on connaître la citation exacte ? Merci.
Si vous permettez, il a dit la France est majoritairement chrétienne et blanche.
J'ai la citation exacte ici, mais attendez.
Bon, pardon.
Monsieur Sarkozy a donc fait la rupture du jeûne. Cela veut dire qu'il s'est rendu à la mosquée de Paris. Qu'en pensez-vous ? Une auditrice, j'ai connu M. Sarkozy en tant que maire de Neuilly et ce fut un bon maire. Mais depuis qu'il est devenu président de la République, il n'est plus un marchand de rêves, mais un marchand de tapis. Un auditeur, est-ce que par défaut, M. Sarkozy ne risque pas d'être pire que Mme Royal, notamment dans notre souveraineté ?
Alors, je vous allais répondre, mais je voudrais d'abord saluer M. Lagartan, s'il est au téléphone. Allô ?
Oui, je suis là.
Laurent Lagartan, je ne sais pas si vous avez entendu les questions et vous pourrez y répondre, si vous avez entendu. Donc vous êtes analyste du monde musulman, vous êtes écrivain et vous avez en particulier écrit le Coran contre la République, les versets incompatibles. Et donc vous êtes loin d'ici, vous êtes à Antibes je crois. Hein.
Oui.
Voilà, donc vous n'avez pas pu venir parmi nous.
Vous m'entendez alors, quand même.
Oui, ben parlez près du micro n'est-ce pas, pour qu'on vous entende encore mieux et fort. Alors je crois que le général de Gaulle n'a jamais employé l'expression seuil de tolérance, qui en revanche a été employée par deux de ses successeurs, à savoir François Mitterrand et Jacques Chirac. Le général de Gaulle a dit, selon Alain Perfit, cette phrase, le 5 mars 1959. Je cite le général de Gaulle. « C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. » Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. C'est cité dans Alain Perfit, c'était de Gaulle, tome 1, édition de Fallois, 1994, page 52. Mm-hmm. Voilà la précision. Alors maintenant, les réponses aux questions, chers amis. Est-ce que vous avez des réponses à apporter ou des précisions ? Oui,
Pardon, oui, moi je voulais parler du mot culte qui me paraît très très important puisque nous avons créé un conseil français du culte musulman. Or je parle sous le contrôle d'une grande arabisante, c'est que la notion de culte n'est pas courante en islam. Culte a deux sens en français, c'est le sens de l'adoration, le culte marial, l'adoration de Marie, et puis à partir du XVIe siècle, à partir de la contre-réforme et du concile de Trente, c'est l'ensemble des pratiques et des rites d'une religion. Or, en islam, si vous voulez parler de culte, c'est l'ensemble de la loi qui constitue l'islam. Donc nous avons constitué un organisme qui peut faire venir à lui la totalité de la loi musulmane. C'est-à-dire que nous avons constitué, ni plus ni moins, un conseil français de la charia en France.
Oui. Et ça, c'est...
Il faudrait peut-être expliquer ce que c'est que la charia, car pour l'instant, nous avons cité le nom, mais nous n'avons pas expliqué ce que c'était.
C'est la loi musulmane qui a été déclarée au XIe siècle, figée, définitive, et il n'est autorisé d'en discuter que dans le cadre de quatre écoles fondamentales, qui sont les quatre écoles,
les
quatre voies,
les Hanbalis, les Shafi'ites.
Voilà, exactement, je crois que vous
dans
êtes
l'islam
très,
sunnite.
Très compétent dans l'islam sunnite. Mais je veux dire que cette notion de culte prouve l'immense ignorance de nos ministres de l'Intérieur, tous confondus. Parce qu'il y a eu M. Chevènement, il y a eu M. Debré, il y a eu M. Sarkozy, etc. Ils sont tous français là-dessus.
Sur ce point précis, rappelons quelques points fondamentaux, chers auditeurs. Mahomet n'était pas simplement un chef religieux, un prophète, c'était un chef d'État et un chef de guerre.
Et un chef de bande.
Un chef de bande, si vous voulez. Mais soyons respectueux.
Au départ, il est un chef de bande.
Ce que je veux dire, c'est qu'il avait une action à la fois religieuse et politique et que tout cela était parfaitement mêlé. L'ayatollah Khomeini a d'ailleurs dit que dans le Coran, il y a davantage de dispositions juridiques que des dispositions spirituelles ou d'appel à la spiritualité. Bien. La loi islamique s'appuie sur le Coran. Donc le Coran est à la fois, si j'ose dire, un évangile, un code civil et un code pénal. Tout cela mêlé.
Elle s'appuie sur le Coran et sur l'exemple de Mahomet et de ses premiers compagnons, Mahomet étant, le Coran, le beau modèle en toute chose.
Il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État en islam. Les notions même d'Église et d'État sont inconnues en islam.
Inconnues
en islam. La cité islamique est à la fois Église et État. Alors, la différence avec le christianisme est criante. Parce que le christianisme est fondé sur cette distinction, indépendamment du laïcisme qui pousse à l'extrême l'opposition ou la distinction de l'Église et de l'État, il y a toujours eu cette distinction. Même dans la théorie des deux glaives de Saint-Bernard, il y a encore une Église et un État qui ne se confondent pas. Et cela remonte à l'Évangile, lorsque le Christ dit, Jésus de Nazareth, le Christ dit dans l'Évangile aux pharisiens, qui eux défendent déjà ce que Madame Delcambre rapproche de la charia, c'est-à-dire la halakha, la halakha. Il répond aux pharisiens, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et rappelons sans cesse que si l'Ancien Testament comporte, comme le Coran, énormément de dispositions juridiques, ces dispositions ont été abolies par le Nouveau Testament, et que dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ ne prend même pas la peine, par exemple, d'éditer un nouveau code de l'esclavage.
C'est
une formule que j'emploie à mon ami Michel de Poncin, que je recevrai tout à l'heure sur un sujet différent, sur le bilan des grèves, et il remarque, parce qu'il est président de Catholique pour les libertés économiques, et à ces gens qui prétendent que dans le christianisme il y a du socialisme, ils répondent, écoutez, Jésus-Christ était dans une société extrêmement inégalitaire, où il y avait des esclaves, des gens qui étaient réduits en esclavage. Et à aucun moment, il ne propose pas d'abolition de l'esclavage, il n'y a pas un mot dans l'évangile qui propose l'abolition de l'esclavage, mais à aucun moment Jésus ne dit qu'il faut réformer l'esclavage. Non, en revanche, il appelle à avoir des sentiments. Il dit que l'esclave est un homme, qu'il a une âme et qu'il est l'égal d'une certaine manière de son maître, mais il ne dit pas, il ne s'occupe pas de politique. Donc il y a une distinction radicale, beaucoup plus forte que ne le pensent beaucoup de catholiques qui sont très ultramontains sur ce point, entre le christianisme qui n'est pas une théocratie et qui repousse la théocratie, et l'islam qui est une théocratie. Alors la théocratie, peut-être pourrions-nous parler avec Madame Delcambre de la théocratie, parce que vous faites ce rapprochement fort intéressant entre le judaïsme et l'islam à la fin de votre livre.
Oui, parce que le problème de la pluralité de religions, comme même en France, c'est que nous avons le christianisme, qui ne tient pas compte de la loi, mais il y a la religion, le judaïsme est une religion de la loi. Et que par conséquent, à la suite de ce que disait monsieur, à la suite de l'islam des interdits, j'ai été étonnée de voir qu'une partie de la communauté juive n'avait pas apprécié le livre. Pourquoi ? Parce qu'eux aussi ont des interdits. Mon ancien professeur de droit romain, Jean-Philippe Lévy, m'a tout de suite écrit une lettre en disant que ce sont les interdits du Lévitique que vous êtes en train de citer. C'est-à-dire que le problème en France, c'est que le judaïsme est une religion de la loi, comme l'islam est une religion de la loi, mais avec cette différence. Premièrement, le judaïsme ne cherche pas à convertir. Et deuxièmement, les rabbins, lorsqu'ils discutent, pinaillent, lorsqu'il y a deux rabbins, il y a trois opinions. C'est-à-dire que, mais oui, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que cette proximité, qu'à chaque fois on nous renvoie à la figure, c'est-à-dire donnons-nous la main, judaïsme et islam, je dis non.
Nous allons y revenir, chère madame.
La Torah n'est pas le Coran.
C'est un sujet très intéressant, mais j'aimerais bien que M. Lagartamp nous dise, parce que, cher Laurent Lagartamp, vous êtes toujours là au téléphone, oui ?
Oui, oui, oui.
Alors nous essayons de répondre à la question, mais je pense que nous avons déjà largement répondu, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y a encore beaucoup de choses à dire. La question, peut-il y avoir un islam de France ? Par opposition à un islam en France, un islam de France. Alors vous avez écrit le Coran contre la République, les versets incompatibles. Alors la France, qu'on le veuille ou non, c'est aussi en grande partie la République. Est-ce qu'à votre avis, donc, mais le titre de votre livre répond d'une certaine manière à la question, l'islam, donc le Coran, donc l'islam, sont compatibles avec la République française?
Oui, alors, évidemment, le livre montre très bien que ce n'est pas possible pour une partie du Coran au moins. C'est-à-dire que, finalement, dans mon livre sur le Coran contre la République, j'ai sorti, distingué environ 400 versets, qui non seulement sont pas sont tellement incompatibles qu'ils constituent que leur lecture, leur publication et leur enseignement constituent ce que le code pénal appelle un délit de provocation à crime et délit contre les personnes. Alors c'est dire à quel point va l'incompatibilité. Alors évidemment ce que j'avance ici est peu suivi parce que dans la critique de l'islam on s'arrête presque toujours au seuil du Coran. C'est-à-dire que, le Coran, oui, il faudrait changer le Coran, mais c'est pas possible, puisque c'est un livre sacré, etc.
Pardonnez-moi, monsieur Lagartamp, mais c'est plus qu'un livre sacré. Dans le dogme musulman, il faut le savoir, chers auditeurs, le Coran, ce n'est pas la parole de Mahomet, c'est la parole de Dieu elle-même.
Éternelle.
Et ce n'est pas, à la différence de la Bible, qui est un livre inspiré, le Coran n'est pas un livre inspiré. C'est la parole de Dieu. Et Dieu, Dieu parle en arabe.
Incréé.
Et il est incréé, c'est-à-dire qu'il a toujours existé dans la pensée de Dieu.
C'est ce que je voulais dire en disant que c'est un livre sacré, c'est-à-dire qu'il est vénéré, considéré comme intouchable, etc. Bon, alors donc...
Oui, mais excusez-moi, la Bible aussi est un livre sacré. Là, on est au-delà du livre sacré. C'est le livre, c'est la pensée de Dieu.
C'est l'incarnation de Dieu, c'est l'équivalent de Jésus-Christ.
Il est super sacré, oui, il est super sacré.
Ah oui, super sacré, c'est le terme, alors, hyper sacré.
À ce sujet, je veux mettre l'accent sur une question que l'on pose aussi. Est-ce que l'islam, c'est l'islamisme, etc. Est-ce que c'est... Alors justement, c'est à ce niveau qu'il faut voir le problème au fond. Si vous voulez, on peut le résumer, cette chose très complexe qui consiste à voir quelles sont les roublardises du monde musulman. Voilà comment on peut résumer la chose. Tous les musulmans tiennent le Coran pour un livre donc de Dieu, intouchable donc. Or, ce que proclament les islamistes est exactement ce que dit le Coran. Donc, tous les musulmans sont islamistes. Voilà. Ça fonctionne un peu comme un syllogisme. Vous connaissez le syllogisme célèbre. Tous les hommes sont mortels. Or, Socrate est un homme. Donc, Socrate est mortel. Et ça fonctionne un peu, tout à fait comme un syllogisme. On peut en donner l'autre version. Par exemple, on peut dire, ça fonctionne sur trois mots, si vous voulez. Par exemple, islam, islamisme et Coran. On peut dire, l'islam est soumission au Coran. Donc, soumission absolue. Donc, intouchable. Or, le Coran est ce que proclame l'islamisme. Donc, l'islam, c'est l'islamisme. Et on peut transposer d'ailleurs le syllogisme à un autre niveau, de trois mots, par exemple l'islam de France, qui fait l'objet de votre interrogation, les musulmans et le Coran. Et on peut dire, faire l'islam de France, c'est modifier le Coran, or être musulman, c'est se soumettre inconditionnellement au Coran. Inconditionnellement, pardon, excusez-moi. Donc, aucun musulman ne peut faire l'islam de France. Et on peut même aussi faire le syllogisme sur modernité, musulman et Coran. Moderniser l'islam, c'est modifier le Coran. Or, tout musulman est inconditionnellement soumis au Coran. Donc, aucun musulman n'est réellement moderniste.
Oui, mais monsieur Lagartamp, vous n'avez pas fait les citations des versets incompatibles que j'attends de vous.
Oui.
Avez-vous votre livre à portée de la main ?
Alors, les versets incompatibles, ben, il y a par exemple une dizaine de versets qui...
Donnez quelques exemples.
Oui. Vous avez par exemple...
Ta femme, il y a celui qui propose... Pardon ?
La loi du talion et la vengeance. Bon, alors ça, c'est absolument incompatible avec, avec les lois de la République. Vous avez ensuite peut-être une cinquantaine ou une centaine de versets qui sont absolument antisémites. Alors vous savez, vous connaissez la place que tient l'antisémitisme dans le code pénal. Et tout à l'avenant. Vous avez aussi d'autres aspects qui sont, par exemple, évidemment, la haine contre les chrétiens et surtout la guerre systématiquement enseignée, recommandée dans le Coran.
Alors,
une guerre qui s'appelle djihad, qui est une guerre qui n'existe pas dans nos conceptions, c'est une guerre perpétuelle et absolue. De destruction de ceux qui ne veulent pas être musulmans, quelle que soit leur religion et quelle que soit leur race.
Cher monsieur Lagartamp, j'ai sous les yeux votre livre, auquel donc je renvoie les auditeurs, Le Coran contre la République, et je vais peut-être lire les chapitres que vous avez bien intitulés. Alors, chapitre 1er, Provocations à la vengeance. Vous parlez du Coran, hein ?
Oui.
Chapitre 1er, Provocations à la vengeance. Chapitre 2, Provocations à l'esclavagisme. Chapitre 3, Provocations à la discrimination religieuse et à la haine.
Oui.
Chapitre 4, Les catégories de la discrimination religieuse. Chapitre 5, Provocations au racisme anti-juif. Chapitre 6, Provocations au meurtre et à la guerre pour cause de discrimination religieuse. Chapitre 7, Provocations à la discrimination sexuelle et à la désobéissance civile. Chapitre 8, Provocations au mensonge. Chapitre 9, Interdits alimentaires. Et vous concluez curieusement, pardonnez-moi, l'inévitable épuration du Coran, mais on ne peut pas épurer le Coran, c'est la parole de Dieu elle-même. Comment voulez-vous épurer le Coran ?
Oui, non, mais je suis bien d'accord, seulement. Mais si le logisme vous montre que c'est même pas la peine de parler de la possibilité d'un islam de France, ou islam en France, ou tout ce qu'on veut, puisque de toute façon, il faudrait, pour faire le moindre progrès dans le sens de la modernité et de la libéralisation de cette religion, il faudrait s'attaquer au Coran.
Alors, dans la République telle que nous la concevons, il y a le respect.
Ben oui, mais
le respect des droits de l'homme.
Je ne suis pas le premier à l'avoir dit. Il y a un certain ministre, je crois, danois, qui avait dit, qui avait sans doute lu le Coran et qui avait dit, mais il faudrait donc attaquer le Coran en justice pour crime contre l'humanité. Bon, et vous savez ce qu'a dit tout simplement notre pauvre philosophe de Toulouse, qui a simplement dit, mais ce livre, ce Coran est d'une violence inouïe. Et ça lui a valu tout de suite.
C'est monsieur Redeker, c'est ça ? Robert Redeker, je crois. Le professeur de Toulouse dont vous parlez,
c'est... Oui, j'avais oublié son nom.
C'est Redeker.
Oui, oui.
Écoutez, monsieur Lagartamp...
Je crois que la République a plié, puisque finalement, elle lui a trouvé un poste au CNRS, je crois, alors qu'il était professeur à Toulouse.
Monsieur Lagartamp, merci de votre témoignage. Donc, je rappelle votre livre, Le Coran contre la République, les versets incompatibles.
J'en ai sorti un qui est sorti au mois de septembre, qui s'appelle L'Islam démasqué.
Eh bien, alors l'Islam démasqué, je ne l'ai pas encore lu celui-là, mais donc j'invite les lecteurs aussi à lire l'Islam démasqué.
Vous voulez de tous les thèmes que vous êtes en train de traiter, et en montrant l'impossibilité de faire quoi que ce soit si finalement on ne s'attaque pas au Coran.
Merci beaucoup, monsieur Lagartamp.
Je vous en prie.
Alors, nous revenons dans le studio, et j'aimerais donc que nous en restions quelque temps sur cette thématique essentielle, qui intéresse même les non-républicains, il y en a quelques-uns encore en France.
Merci.
L'islam est-il compatible avec la République, avec les principes de la République, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, hein, bien sûr. Nous parlons ensuite des autres incompatibilités de l'islam avec l'Occident, avec les différentes formes de notre civilisation. Qu'est-ce qui, dans l'islam, s'oppose à la République ? Qui veut répondre ? René Marchand ? Non, Jean-Noël Audibert, peut-être, oui.
Écoutez, je voulais revenir d'abord sur...
Je voudrais que nous parlions de la question l'islam et la République.
Je voulais compléter Lagartamp.
Oui.
Puisqu'il n'avait pas son livre sous les yeux, je vais vous citer un certain nombre de sourates qui sont des appels au meurtre. Deuxième sourate, tuez-les où que vous les trouviez, chassez-les d'où ils vous chassaient, s'ils vous combattent, tuez-les, c'est le salaire des incroyants. Ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les pousserons au feu. Chaque fois que leur peau sera brûlée, nous leur donnerons une autre peau pour qu'ils goûtent le tourment.
Le tourment.
Le tourment.
Le tourment. L'enfer.
L'enfer, oui. Mais si vous permettez, il y a aussi, il ne faut jamais négliger non plus l'autre fondement de l'islam qui est le comportement de Mahomet. Et les petits musulmans apprennent tout petits des phrases du prophète, en particulier dans son attitude vis-à-vis des juifs. Et il y a une phrase que tous les petits musulmans apprennent, au Pakistan ou partout, c'est « Tout juif sur lequel tu mets la main, tue-le ». Alors quand on...
Ça, ce n'est pas dans le Coran, c'est dans les hadiths.
Oui, mais les hadiths sont fondateurs de l'islam. Par exemple, c'est souvent le hadith qui l'emporte sur le Coran. Alors, par exemple, dans le Coran, la femme doit être adultère, doit être souhaitée, et le hadith fait qu'elle est lapidée.
Les hadiths, ce sont, chers auditeurs, les 10 effets
du prophète et de ses premiers compagnons.
Mais...
Rapporté
par ses premiers compagnons, et ça constitue la sunna, c'est-à-dire la tradition qui complète le Coran. Voilà, et donc là-dedans, on trouve...
Mais parfois, le hadith l'emporte sur le Coran dans la constitution de l'islam.
Ça me paraît un peu hérétique, mais bon, on n'en a pas discuté.
Pour en revenir sur les questions entre compatibilité entre islam et république, il y a quelque chose d'assez paradoxal quand même. C'est qu'au nom de la liberté religieuse, au nom de la laïcité que vante notre république, on installe l'islam en France, alors que justement, l'islam non seulement ne connaît pas ces notions, mais les combats. La laïcité, c'est quelque chose qui est absolument incompatible avec l'islam, de même que la liberté religieuse. Il faut savoir que l'apostasie, comme le disait tout à l'heure Madame Delcambre, est condamnée par la mort, par les 4 écoles juridiques de l'islam sunnite, et l'UOIF, pour entrer un peu dans le sujet de l'islam en France... L'UOIF a un directeur des études qui s'appelle Ahmed Jabala, qui était l'ancien directeur d'ailleurs de l'UOIF, et qui a écrit dans un texte que l'apostasie est clairement prohibée en islam. Et ça, c'est dans les sanctions judiciaires de son texte.
L'UOIF, c'est l'Union des organisations islamiques de France, c'est la branche française des frères musulmans, organisation égyptienne, qui, selon M. Yves Bertrand, l'ancien directeur central des renseignements généraux, est dirigé par des gens extrêmement intelligents et qui mène une action de subversion extrêmement habile. Et il faut savoir que M. Sarkozy, lorsqu'il a instauré le Conseil français du culte musulman, comme ministre de l'Intérieur, en 2003, je crois, eh bien, M. Sarkozy n'a pas seulement installé ce Conseil français du culte musulman, il a aussi promu ces extrémistes de l'UOIF. Et il les a aidés à développer leur puissance en France, leur influence sur l'islam de France, l'islam français, enfin l'islam situé en France.
Si vous permettez, il y a quelque chose qui me paraît, là, vous mettre le doigt sur quelque chose de très important. Quand on parle de l'islamisme, on pense à Al-Qaïda et aux différents organismes qui se sont regroupés dans ce holding. Or, Al-Qaïda, que peut faire Al-Qaïda? Il peut tuer, il peut détruire et provoquer un sursaut. Or, les frères musulmans, eux, qui sont nés dans l'Égypte coloniale, qui savent jouer avec le temps, qui nous connaissent parfaitement, etc., eux mènent une autre guerre, qui est une guerre subversive, qui est masquée par les attentats d'Al-Qaïda.
Alors, je voudrais, chers auditeurs de Radio Courtoisie, insister sur deux notions fondamentales quand on parle de l'islam en France. La première, c'est la taquiller, la dissimulation. La deuxième notion, ce sont ce que Père Ansel Hugo appelle les Turcs de profession. Alors, la taquiller, c'est la dissimulation. Il faut savoir que l'islam est le contraire du christianisme à beaucoup d'égards, et notamment sur le plan de la vérité. Le chrétien, en théorie, alors je sais bien que les jésuites ont apporté quelques tempéraments à cette notion, défend la vérité, y compris dans l'idéal, au péril de leur vie. Le martyr est un idéal du chrétien. Professer devant Néron la foi chrétienne, la divinité de Jésus, au péril de sa vie, c'est un idéal. Bien. C'est l'inverse pour les musulmans. Lorsque le rapport de force ne permet pas aux musulmans de professer leur foi, ils doivent se dissimuler. Je vais rappeler quand même ce qui s'est passé en Espagne au XVIe siècle. Vous vous rappelez que la reconquête espagnole, la Reconquista, s'est achevée en 1492 par la prise de Grenade. Et los Reyes Catholicos, les rois catholiques, c'est-à-dire Isabelle et Ferdinand, ont dit aux musulmans qu'ils pouvaient rester, aux musulmans de Grenade, qu'ils pouvaient rester quelque temps. Et puis, envers leur successeur, dont j'ai oublié le nom, vers 1510-1520, a pris une ordonnance expulsant les musulmans. Et à ce moment-là, les musulmans ont obtenu une fatwa des oulémas d'Afrique du Nord qui leur permettait de rester en Espagne en faisant semblant d'être chrétiens. Ils ont continué à islamiser en faisant semblant d'être chrétiens. Et donc, ils s'habillaient à la mode musulmane, ils continuaient à ne pas manger de porc, etc. Et donc, ils étaient des musulmans camouflés. C'est ce qu'on a appelé les morisques. Et les morisques formaient quand même 5% de la population espagnole, ça n'est pas rien. Donc, sur 3 millions d'habitants, ça faisait 150 000 personnes. Et la situation a duré quand même un siècle jusqu'à l'expulsion des Maurices comme ici 609. Mais tout ça pour dire que les musulmans, lorsque le rapport de force ne leur est pas favorable, sont très capables de mentir délibérément. Parce que comme l'islam, justement, c'est une politique, ben la politique, il faut bien parfois, lorsqu'on fait la guerre, utiliser la ruse.
Et ils ont une stratégie.
Et donc, si vous voulez, la différence entre les islamistes d'Al-Qaïda et ceux de l'UIF, ce n'est pas l'objectif.
Non.
C'est une différence principalement sur l'analyse de la situation et des rapports de force, et sur la stratégie. Car Al-Qaïda vous dit, croit que la situation est révolutionnaire en quelque sorte.
C'est la culture du désert. On fait un coup, on se replie. Voilà. Tandis que les autres, ils occupent le terrain. Et...
Les grands oulémas, par exemple, vous parliez des grandes obédiences islamiques. Abu Hanafi, qui était le fondateur des écoles, qui n'est pas d'ailleurs celle d'Al-Qaïda, mais bon, c'est celle que je connais sur le sujet, a dit quelles étaient les conditions de déclenchement du djihad, de la guerre sainte. Alors, il y a plusieurs conditions. L'une, c'est le rapport de force. C'est-à-dire qu'il faut déclencher le djihad quand on pense qu'on va gagner.
Bien sûr.
Je pense que la différence principale entre les dirigeants de l'UIF et Ben Laden, c'est qu'ils sont plus réalistes et qu'ils savent que les musulmans sont beaucoup moins forts que les chrétiens et que par conséquent, ils n'ont pas intérêt pour l'instant, parce qu'ils ne sont pas majoritaires, à déclencher la guerre.
Oui, mais quand ils nous considèrent, ils considèrent très souvent qu'ils nous ont déjà vaincus. Pourquoi ? Parce que nous acceptons les mosquées, nous acceptons les femmes voilées, nous nous laissons piétiner de toutes les manières. Et je vais vous dire, ils nous font vraiment de ce que Villiers appelait du foutage de gueule. Et je vais vous citer un exemple très simple.
Restons corrects.
Mais je suis très correct, parce que là, ça me donne les glandes.
Oh, il y a une...
je vais partir.
Il y a quand même là, franchement, vous êtes dans la radio courtoisie ou...
Écoutez, bon. Il y a une mosquée qui a été créée à Bourges. Une mosquée avec de l'argent public. Savez-vous comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Al-Fatah. La conquête. Et si ce n'est pas se moquer des braves Français de souche, alors qu'est-ce que ça veut dire ?
Je voudrais dire, pour être plus... Je vous donne entièrement raison dans votre franchise, parce que... Mais il y a quelque chose qui a été inventé par les oulémas. C'est la notion de firq de minorité.
Vous n'êtes pas les docteurs de la loi.
Les docteurs de la loi, pardon. C'est la notion, oui, de droit musulman pour les minorités. C'est-à-dire que pour ceux qui vivent en Europe, ils n'auront pas l'intégralité du droit musulman. Pour eux, par exemple, l'interdiction du prêt à intérêt ne va pas jouer. Pour la résidence principale, ils auront droit d'avoir un prêt auprès des banques, pour acquérir une maison, ce qui contribue à l'islamisation très lente du sol français. D'autre part, ils peuvent très bien vivre en concubinage, c'est ce qu'ils appellent le zawaj friend, une sorte de concubinat, vous voyez, de mariage ami, parce qu'ils se disent qu'il vaut mieux être dans un pays européen et islamisé plutôt que partir et...
Oui, tout ça est issu du Conseil européen
de la fatwa très juste.
Qui est l'organe juridique qui supervise l'UIF.
Vous avez parfaitement raison de parler de ce droit musulman adapté à une situation minoritaire. J'ai cité un cas extrême qui est celui des Maurisques, qui est le cas des musulmans en pays où l'islam est interdit et où ils doivent se camoufler. Ils ont le droit de se camoufler. On ne leur demande pas de témoigner leur foi comme des martyrs chrétiens. On leur demande au contraire de la dissimuler pour continuer à exister et à prospérer.
Mais je donne raison à M. Marchand. C'est parfois nous prendre pour des crétins, pour des cons, foutage de gueule. Non, excusez-moi. Oui, mais c'est la vérité, il faut le dire.
Bon, on peut le dire la vérité en français châtié.
Si vous voulez, mais appeler une mosquée la conquête, je trouve que c'est quand même...
Oui, et appeler des mosquées Dawa, c'est-à-dire l'appel à l'islamisation.
La maison de l'islam, ça c'est extraordinaire.
Nous avons ici la chance d'avoir un conseil municipal de Versailles, ville apparemment... Sans crainte. Il y a une mosquée, comment s'appelle-t-elle, Jean-Marie Audibert?
La mosquée s'appelle la Maison de l'Égir, et c'est véritablement... C'est véritablement une mosquée, elle est située, pour ceux qui connaissent Versailles, presque au croisement de la rue des Chantiers et de la rue Jean-Mermoz, plus exactement au 31 rue Jean-Mermoz. Il y a des Versaillais qui m'ont soutenu que ce n'était pas une mosquée. Je suis désolé, vous tapez sur Internet « mosquée et Versailles » et vous obtenez effectivement l'adresse, le numéro de téléphone de cette mosquée qui a été implantée par M. Pinte contre l'avis de ses amis...
M. Pinte, le maire de Versailles.
Le maire de Versailles,
actuel.
Contre l'avis de ses administrés, sans aucune consultation, de fait...
Et c'est quelque chose qui n'a pas été apprécié par les Versaillais. Et c'est un problème général en France. D'ailleurs, il y a de plus en plus de phénomènes de construction de mosquées avec, en plus, un détournement de la loi par les municipalités qui, à travers des baux amphithéotiques de 99 ans ou 199 ans, loue pour un euro des terrains de 2000, 3000 mètres carrés au centre-ville.
Marie-Françoise, non, vous n'êtes pas encore au point.
Il y a beaucoup de messages.
Eh bien, commencez par en lire une partie si vous êtes débordé par les messages. Oui. Lisez d'abord ce que... L'islam est un sujet évidemment passionnant et passionné.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri Delesquin, qui reçoit aujourd'hui Jean-Noël Audibert, conseiller municipal de Versailles, Anne-Marie Delcambre, universitaire écrivain, René Marchand, journaliste écrivain, Joachim Véliocas, écrivain directeur de l'Observatoire de l'islamisation. Une auditrice. Le gouvernement algérien, par la loi de 2006, prévoit jusqu'à 5 ans de prison ferme et des amendes pouvant aller jusqu'à 10 000 euros pour tous ceux qui chercheraient à convertir un musulman à une autre religion. Ces mêmes peines sont également encourues par tous ceux qui fabriqueraient, entreposeraient ou distribueraient du matériel imprimé, des publications audiovisuelles ou tout autre support ou moyen visant à affaiblir la foi musulmane. L'Algérie compte moins de 10 000 catholiques pour une population de 33 millions d'habitants, à très grande majorité musulmane. Un auditeur. Ne nous laissons pas prendre au piège, car l'islam se présente comme une religion, mais Karim Ramadan, je crois, a déclaré lui-même...
Je crois que c'est Tariq Ramadan,
oui,
plutôt que Karim, Tariq.
Tariq Ramadan a déclaré lui-même, l'islam est une philosophie dictatoriale, se présentant comme une religion. C'est uniquement pour profiter de tous les avantages que la France concède aux religions. Une auditrice, finalement la religion musulmane n'est pas si mal que ça, puisque son intolérance mettrait tous ses voyous au pas, main coupée, etc. Une auditrice, Madame Delcambre a-t-elle fait l'objet d'une fatwa? Un auditeur, l'islam de Français, c'est l'héritage de la politique d'abandon gaulliste, socialo-communiste, depuis 40 ans. Prouver le contraire, c'est une trahison par nos politico-intellos. Un auditeur, l'islam est la religion d'amour au cimetière qui conduit au cimetière. Un auditeur, quelle est la meilleure traduction du Coran? Peut-on espérer qu'un conflit entre schisme, sylisme et sunnisme puisse dissoudre les dangers de l'islam?
Non.
Un auditeur, quelles instances se préoccupent de l'origine de l'argent dévolu pour la construction des mosquées? Je suis d'accord à 100% pour ce qui se dit à l'antenne. Un auditeur, est-il vrai que dans le Coran ne figurent à aucun moment les mots liberté et amour? Un auditeur, bravo pour votre émission. L'islam en France est un phénomène qui date d'après la Deuxième Guerre mondiale. On est une nation chrétienne et je ne vois guère de solution car l'islam avance. Nous sommes un pays occupé. Sarkozy a dit qu'il fallait une mosquée par commune dont le financement serait assuré par la Caisse des impôts et consignations, par l'intermédiaire d'une fondation. Une auditrice. L'islam est un sujet intéressant. Est-ce que chacun des intervenants a conscience que la République française deviendra islamique? C'est prophétisé. Une auditrice. Vos intervenants ont parlé de l'affaire de Villiers-le-Bel et je dois dire que j'ai l'impression que la version des faits est en train d'évoluer. J'ai entendu sur une radio importante une magistrate courageuse qui a déclaré que dans cette affaire, les policiers ont agi avec toute la rigueur possible et qu'il n'y avait pas eu de, entre guillemets, bavure. Au sujet de l'islam, chers amis, nous aurons avant peu du sang et des larmes. Mort aux traîtres, le Coran doit être déclaré hors la loi. Un auditeur, je ne saurais mieux conseiller la lecture du livre Le vrai visage de l'islam de Monsieur Al-Kader, édité par Kyrillos, à Durtol, dans le Maine-et-Loire.
Une auditrice. Tout ça, on le sait depuis longtemps, mais que peut-on faire? On achète des fusils ou quoi? Si on est poulet dans une basse-cour, à quoi cela sert-il de dire que la poule au pot existe? Un auditeur. A-t-on fait le recensement des mosquées et combien y en a-t-il? Un auditeur. Madame Delcambre, que pensez-vous de la chute de la natalité en islam? Peut-elle enrayer la poussée de l'islam et des musulmans? Un auditeur. Pour Monsieur Marchand, connaissez-vous... La Risala de M. Ben Halil, on peut conseiller aussi la lecture du Coran contre la République, incompatible avec le... Oui, ça c'est un livre que nous avons déjà cité. Un auditeur, il y a une différence fondamentale entre le Coran, parole de Dieu non modifiable, et les évangiles qui renferment très peu de versets de violence, Luc dans une parabole, contrairement au Coran. Par ailleurs, le père Moussali avait trouvé un peu... avait trouvé, avait insisté sur la différence entre la charité et le Dieu miséricordieux du Coran. Monsieur de Lesquin, pouvez-vous éclairer les auditeurs sur la position des États-Unis, qui sont pro-islamiques au Kosovo et qui sont favorables à l'entrée de la Turquie dans l'Europe et qui sont pourtant anti-musulmans en Palestine. Une auditrice. Monsieur de Lesquin se moque de nous.
Ah.
Merci madame. Quand il parle des valeurs de la République, lorsqu'on voit le totalitarisme intellectuel, les résultats du référendum de 2005 dont on ne tient pas compte, c'est ça la République. Je n'approuve pas ce que fait monsieur Sarkozy sur le sujet. Un auditeur, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, Allah n'est pas Dieu, les 10 commandements de Dieu sont refusés par le Coran. Un auditeur, la religion catholique est universelle car elle s'adresse à chaque homme, donc elle les respecte tous, le Samaritain, Marie-Madeleine, le bon larron, tandis que les communautés forment des groupes qui se renforcent eux-mêmes, donc instinctivement méprisent ceux qui n'en font pas partie. Un auditeur, faire la différence entre islam et islamisme, c'est différencier la pointe d'une lance de la lance. La pointe, c'est l'islamisme. L'islam modéré, c'est le manche en bois de la lance.
Nos auditeurs ont beaucoup de talent.
Eh oui, ça je le sais. Quelles sont vos réactions?
Moi, je voudrais faire réagir à un point. Que peut-on faire? Je crois que c'est là qu'il faut. Il faut vraiment. Bon.
Je peux, avant que vous ne parliez, dire le danger de faire quelque chose. Je voudrais citer le cas, non pas un pays qui nous est proche, la Belgique, où quelqu'un a essayé de faire ce que nous faisons ici. C'est-à-dire, il a écrit exactement la même chose que moi, le père Samuel, qui est un prêtre traditionnel, et qui subit un procès, qui a un procès intenté par le Centre pour l'égalité des chances, c'est-à-dire ce genre d'association pour contre le racisme et l'antisémitisme. Et il risque jusqu'à un an de prison et une amende énorme. C'est-à-dire que pour dire ce que nous disons, nous risquons, du point de vue judiciaire, vraiment une peine grave.
Non, alors madame, je vous arrête.
Ah ben genre, oui, alors,
c'est un sujet sérieux.
Comment?
Non, l'islam est une doctrine qu'on peut critiquer, comme on peut critiquer toute doctrine. Il ne faut pas pour autant dire que les musulmans sont mauvais parce qu'ils adhèrent à une doctrine qu'on ne partage pas. Les communistes peuvent être parfaitement sympathiques et sincères et parfaitement respectables en tant qu'hommes. Ce n'est pas pour autant qu'on doit apprécier les communistes. Ce rapprochement n'est pas du tout artificiel. Jules Monod disait que le communisme, c'était l'islam du XXe siècle, c'est-à-dire un projet de révolution mondiale qui voulait conquérir le monde. Nous avons montré que la distinction qui existait, qu'on veut faire entre religion et politique, n'existe pas dans l'islam. Mais d'une certaine manière, le communisme est aussi une religion séculière, a dit Jules Monod et après lui Raymond Aron. Donc, on a le droit, et la loi française aujourd'hui, quelles que soient les critiques qu'on peut porter aux lois dites à l'égard des lois dites antiracistes, la loi permet de critiquer toute doctrine, toute religion, et toute doctrine politique, qu'elle soit politique ou religieuse d'ailleurs. Par conséquent, nous avons parfaitement le droit de dire ce que nous disons. Sinon, d'ailleurs, je ne vous aurais pas permis de le lire.
Mais la loi belge, la loi Moreau, est beaucoup plus...
Je ne connais pas la loi belge, moi je vous parle de la loi française.
Est-ce que vous me permettrez de faire remarquer que les gens qui veulent faire un islam différent de l'islam réel, ce sont des gens qui méprisent les musulmans. Car ils disent aux musulmans,
les non-musulmans, vous voulez dire?
Non, les non-musulmans qui veulent faire un islam de France.
Alors distinguons, monsieur René-Archamp. Il y a deux cas. Il y a le cas des Turcs de profession. Alors, il faut savoir que...
Non, mais je ne parle pas de cela.
Oui, mais attendez, expliquons d'abord la notion. Parce qu'il y a parmi les islamologues...
Beaucoup.
Où les spécialistes de l'islam, énormément de gens qui savent très bien à quoi s'en tenir et qui mentent délibérément par intérêt.
Exact.
Soit par idéologie, soit par intérêt. Et alors, qui en tire d'ailleurs toutes sortes d'avantages matériels. Bon, et pas simplement celui d'être dans le politiquement correct. Parce que les musulmans dans le monde, à cause du pétrole, en particulier de l'Arabie Saoudite, ont beaucoup d'argent. Et donc, l'islamologue ou le spécialiste d'études islamiques a intérêt, en fait, à se faire être bien vu des musulmans, ne serait-ce que pour se faire payer de beaux voyages à travers le monde.
Nicolas Sarkozy a accepté le financement saoudien des mosquées en France. Je vais rafraîchir les mémoires d'un petit peu tout le monde.
Monsieur Veliokas.
Alors, c'était un communiqué officiel du ministère de l'Intérieur cité dans le Figaro du 9 octobre 2002. Les soutiens financiers apportés par la Ligue islamique mondiale pour aider à la pratique du culte musulman sont possibles. Ça, c'était le communiqué du ministère de l'Intérieur qui avait été publié juste après la visite d'Abdallah Turki, qui est le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale. Voilà. Et la Fondation pour les œuvres de l'islam, dont la présidence va être par l'UOIF d'ici 2 ans, accepte déjà les financements. Et on n'a même pas le droit, nous, citoyens français, alors que c'est de l'argent qui est placé à la Caisse des dépôts et des consignations, de savoir d'où il vient. Une journaliste du Figaro, Cécilia Gabizon, en mars 2005, avait essayé de se renseigner et elle rapportait que l'origine était inconnue. Et voilà, il y a un secret bancaire qui entoure tout ça, mais il ne fait aucun mystère, étant donné que le ministère de l'Intérieur lui-même avait dit que les financements saoudiens étaient possibles. Et à partir du moment où il y a financement, Nicolas Sarkozy a beau dire qu'il n'y aura pas de dépendance idéologique, mais c'est une vaste blague. Quand on coupe le robinet d'une organisation, ils sont complètement dépendants, ils ne peuvent pas critiquer le wahhabisme, étant donné qu'ils sont financés par le wahhabisme.
Qui fait les musiciens,
la mosquée de Lyon, la mosquée d'Evry, et ça continue, financé.
Oui, mais alors écoutez, monsieur Médiocas, franchement...
C'est très important.
C'est très important, vous avez raison, mais nous revenons au débat de tout à l'heure. Moi, je ne suis pas sûr qu'un islam qui serait financé entièrement par l'État, ou bien financé entièrement par les musulmans français, serait meilleur qu'un islam...
Tout à fait. Là, c'est le wahhabisme, c'est l'islam le plus intégriste.
C'est ce qu'a dit monsieur Delesquin. Concernant, par exemple, les islamologues achetés, pour avoir leur couscous, leur voyage, leur cadeau, etc.
Les Turcs de profession.
Mais il y a des gens qui ont fait paraître un livre très intéressant, les Urvois, Dominique et Marie-Thérèse Urvois, en particulier l'action psychologique dans le Coran, qui est paru au CERF et qui explique pourquoi le musulman est si accroché à sa religion, pourquoi il a tant de certitudes, pourquoi en entrée dans la religion, il n'en sort pas. Indépendamment de l'apostasie, il croit. Et il y a des mécanismes psychologiques qui sont à la base de cette foi, de cette croyance. C'est très bien analysé, c'est 100 pages, 18 euros, et c'est vraiment très bien.
Un autre livre
18
qui va
euros que vous dépenserez, mes chers auditeurs, lorsque vous aurez d'abord réglé votre cotisation à Radio Courtoisie,
Un autre livre qui va exactement dans le même sens, qui a été écrit par une femme turque, « Les femmes sont à la pointe du combat hein, », qui s'appelle Necla Kelek, qui s'appelle « Plaidoyer » pour, je ne sais plus, la décolonisation de l'homme musulman ou quelque chose comme ça, où elle explique les mécanismes psychologiques qui agissent sur le jeune musulman dès sa petite enfance. Mais je voudrais m'exprimer sur cette histoire parce que nous avons parlé des accusations de racisme et autres que nous pouvions encourir. J'estime qu'il n'y a rien de plus antidémocratique et de moins respectueux pour l'autre que de dire « je t'accepte, mais à condition que tu ne sois pas toi-même ». C'est une forme de néocolonialisme. C'est-à-dire que les tenants de l'islam de France méprisent les musulmans.
C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de gens qui désinforment. Il y a d'abord les musulmans eux-mêmes. Trois sortes de gens. Il y a les musulmans eux-mêmes qui pratiquent le taqiyya, la dissimulation.
D'accord.
Deuxièmement, les Turcs de profession par complaisance. Et troisièmement, des gens relativement sots, il faut bien le dire,
oui,
qui s'imaginent que de l'extérieur, ils vont transformer l'islam.
Voilà, et puis...
C'est hallucinant.
Non, mais en plus, c'est exactement comme monsieur, je regrette de le dire à ces braves gens qui sont en général à gauche, c'est exactement la suite du colonialisme. C'est monsieur Jules Ferry allant apporter la civilisation aux races inférieures. C'est un mépris, c'est considéré. Nous vous acceptons, mais à condition que vous ne soyez plus vous-même.
Et vous ne parlez pas d'islamo-gauchisme?
Oui, ça aussi.
Alors ça, c'est très important. J'aimerais que vous en parliez un peu. Car, pour
chers
auditeurs, on nous demande quoi faire. Là, il y a beaucoup de choses. On peut répondre de beaucoup de manières. La première raison, c'est d'utiliser son bulletin de vote. Un bon citoyen doit utiliser son bulletin de vote et ne pas se laisser duper. Par conséquent, je crois que quelqu'un qui ne veut pas d'islamisation de la France devrait y réfléchir à deux fois avant de voter pour M. Nicolas Sarkozy. Ou avant de voter aux élections municipales de mars prochain, pour l'un des nombreux maires qui pratiquent l'islamisation de la France, comme le maire de Versailles, le sinistre Étienne Pinte, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on peut citer. Visiblement, le maire de Villiers-le-Bel est une calamité. Le maire de Villiers-le-Bel, c'est absolument incroyable. Il y a des émeutiers musulmans qui mettent le feu à la ville, et il propose de dialoguer avec les jeunes. C'est-à-dire que dans son vocabulaire, les émeutiers deviennent des jeunes. Et ça me fait penser au sinistre Pinte qui, à Versailles, lorsqu'il y a eu des voitures qui ont brûlé, avait organisé un concours de tag. Excusez-moi, chers auditeurs, c'est un mot anglais, mais c'est celui qui avait employé, un concours de tag pour les féliciter, les remercier, bien entendu, avec des financements publics à la clé, aux frais des contribuables versaillais, pour récompenser les émeutiers qui avaient brûlé les voitures. C'est hallucinant, cette démagogie. Donc il faut, chers auditeurs, éliminer par votre vote, ou tâcher d'éliminer par votre vote, les hommes politiques qui sont complaisants avec l'islam. Et c'est là que la remarque de Mme Delcamp sur l'islamo-gauchisme est très importante. Parce que il y a en France une connexion entre l'extrême gauche, une connivence entre l'extrême gauche et l'islam. extrêmement paradoxal. Vous en parlez, cher Vadiokas, dans votre livre. Entre, vous parlez des liens entre l'UOIF et le MRAP. Alors, peut-être pourriez-vous en dire un mot.
Alors, le MRAP, je crois qu'il faut s'arrêter sur cette organisation, car elle est financée par les conseils régionaux, par les municipalités. Le MRAP, dirigé par Mouloud Aounit, pendant, par exemple, l'affaire des caricatures, Mouloud Aounit avait réclamé une loi anti-blasphème, c'est-à-dire d'appliquer la charia. Et ça avait provoqué un certain émoi au sein même du MRAP. Au sein même du MRAP, il y a eu des désertions. Le MRAP, c'est une coquille vide de quelques dizaines de personnes qui ont des budgets colossaux de millions d'euros. Les dépêches AFP n'arrêtent pas de parler de M. Mouloud Aounit qui ne représente que lui-même. Et il faut savoir que cet homme-là, non seulement quand il y a un maire qui veut, par exemple, s'opposer à la construction de mosquées, il attaque en diffamation.
Le MRAP est dirigé par un communiste.
Oui, tout à fait.
Le MRAP, c'est important de préciser. C'est très important de commencer par là. Bon, donc l'extrême gauche joue un rôle énorme dans l'action immigrationniste. Et il y a un accord secret, mais évident. Oh, à mon avis, il n'est pas tout à fait. Ils se sont réunis, ils se réunissent. Les organisations islamistes comme l'UOIF a passé accord avec le MRAP et d'autres mouvements d'extrême gauche et les trotskistes contre la. Alors, c'est un accord extrêmement paradoxal qui, à mon avis, a deux aspects. Premièrement, un aspect purement stratégique, c'est-à-dire que nous avons le même ennemi, qui est la France, donc nous nous allions contre l'ennemi commun. Parce qu'en soi, l'islam, évidemment, et le communisme, ou le marxisme, c'est complètement incompatible. Bien. Mais il y a un autre accord, il y a une raison peut-être encore plus importante et plus profonde, c'est le fait que pour les révolutionnaires qui sont en déshérence de révolution, pour qui le prolétariat n'est plus ce qu'il était, eh bien, l'islam est devenu une force révolutionnaire.
Un relais de croissance.
Vous avez un personnage emblématique qui est Carlos. Carlos, le terroriste communiste, qui est aujourd'hui en prison en France, eh bien, s'est converti, ou afin de se convertir à l'islam, et a appelé à considérer qu'aujourd'hui c'était l'islam qui représentait les masses révoltées du monde. Et cela est à mettre en relation avec les théories néo-marxistes de Antonio Negri, qui est aujourd'hui le pape de la pensée d'extrême gauche, qui dit maintenant la lutte des classes est devenue la lutte de l'empire contre les multitudes. La multitude, c'est-à-dire les masses, et puis l'empire, ce sont les États-Unis, etc. Bon. Eh bien, l'islam représente cette action révolutionnaire de la multitude. Et donc, pour des raisons idéologiques profondes, on va s'allier avec ces gens-là, et avec les plus extrémistes des musulmans, parce qu'il y a des gens évidemment qui sont plus ou moins modérés chez les musulmans, ou des doctrinaires de l'islam qui sont plus ou moins ardents dans leur action, et on va s'allier avec ces gens-là contre la France, et pour faire la révolution, pour détruire la France, avec l'objectif commun qui est de transformer la France en société multiculturelle, société multicommunautaire, de détruire l'identité nationale, à la fois républicaine et chrétienne, qui constitue notre socle commun de valeurs et de culture.
Mais je crois qu'il y a aussi un islamo-droitisme. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de gens venus de la droite et souvent de la...
François Grandidier, par exemple.
Non, et d'autres qui voient, par anti-judaïsme, qui voient dans l'islam un relais pour une idéologie...
Alors, le martianisme.
Voilà.
Donc effectivement, dans l'ensemble de la typologie des pro-musulmans, des complices objectifs de l'islam, alors il y a donc l'extrême gauche, il y a une certaine droite anti-impérialiste, anti-américaine ou anti-israélienne, qui considère qu'il faut s'allier. Alors il y a des noms que je pourrais citer, car lui, il y a qui est très astucieux, a des agents d'influence, j'en connais au moins deux que je pourrais citer à l'antenne, qui agissent au sein de la droite identitaire pour faire avancer les thèses pro-musulmanes.
Dont certains vont très couramment en Iran chercher leur petit paquet de dollars.
On ne dira pas de nom. Et puis vous avez ensuite, vous avez les pro-américains. Alors il y a une autre thèse, un autre courant incompatible évidemment avec les autres. Ce sont les pro-américains qui considère que l'islam, c'est l'islam des soufis, c'est un islam, au fond, on peut transformer l'islam en religion spirituelle. D'abord, on a intérêt à s'entendre avec un islam modéré, parce que c'est un islam qui a le pétrole, et donc pour que les affaires marchent, et les affaires pétrolières marchent notamment, il vaut mieux ne pas se mettre trop mal avec ces gens-là. Et donc, l'Amérique, c'était la question d'un auditeur, a dans l'ensemble une position, et malgré le 11 septembre, et malgré Al-Qaïda, continue à avoir une action pro-musulmane dans le monde, par exemple au Kosovo aujourd'hui.
Madame et le dialogue islamo-chrétien. C'est ce que me faisait remarquer le dialogue islamo-chrétien, de ce qu'on appelle les dialogueux, qui appelle le pape le berger allemand, et qui s'entendent, c'est en particulier les dominicains du Caire, comme le père Régis Morlon ou d'autres, comme,
En France même, c'est la semaine du dialogue islamo-chrétien en ce moment.
Qui sont mes pires ennemis, qui m'ont menacé d'un procès, parce que eux, et c'est ça que le père Moussoli, il est mort en ayant cette crainte, eux disent qu'il faut être présent à l'étranger, le frère, tu accueilleras ton frère, Non, mais vraiment, moi, ça m'énerve, ça. Parce que, sous prétexte de cela, on va brader les dogmes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On ne parle pas de Jésus. Jésus, c'est le même Jésus, c'est le même Abraham, c'est le même,
alors,
la religion,
et
la
rose croix.
Ne Madame me parlez Descamps, pas de ça, je vais avoir l'urticaire.
Madame Descamps, alors arrêtez-vous, ne voudriez pas que vous ayez l'urticaire, mais je répondais au passage à une question d'un auditeur sur la meilleure traduction. À ma connaissance, il n'y a qu'une seule traduction scientifique du Coran en français. Car les traductions du Coran en général sont remplies de faux sens et de pièges. C'est la traduction qui remonte à 1949 de Régis Blachère et qui a été éditée aux éditions Maisonneuve en 1949. Donc.
Qui fut notre maître, sur madame.
Moi, Régis Blachère, le grand islamologue, car la France a connu de très grands islamologues.
Jean Grosjean également. La traduction de Jean Grosjean que j'utilise dans mon livre. Et à le sceau de l'Institut Al-Azhar, de l'Université Al-Azhar. Mais je vous assure que
ce n'est pas du tout.
Mais il y a plusieurs traductions.
Non,
très important, c'est très
important. Avec tout le respect que j'ai pour vous, M. Médiocas, le fait que cette traduction soit avalisée par Al-Azhar ne me paraît pas du tout de bonne aloi. La traduction de
c'est celle que je cite dans mon livre et qui est très radicale.
Mais la seule traduction scientifique, c'est celle que
j'ai en lisant.
Qui a été publiée.
Pour les chrétiens qui nous écoutent, je voudrais citer quand même quelques sourates du Coran qui portent condamnation du christianisme. Alors, sourate 9, l'immunité, verset 30. Les chrétiens ont dit, le Messie est le fils d'Allah, qu'Allah les tue.
Exact.
Ensuite, Régis Blachère, donc notre islamologue, explique. Le présent texte abroge toute disposition antérieure autorisant une attitude expectante, c'est-à-dire gentille, de temporisation envers les chrétiens. Vous savez que dans le Coran, il y a des versets abrogeants, des versets abrogés. Donc le verset qui abrogeant, c'est celui qui dit « Les chrétiens ont dit le Messie est le fils d'Allah, qu'Allah les tue », c'est le verset 30 de la sourate 9. Le sourate 5, la table servie, versets 56 à 63. Ils interdisent aux croyants de pactiser avec les juifs et les chrétiens. Verset 56. « Ô vous qui croyez, ne prenez point les juifs et les chrétiens comme affiliés. Ils sont affiliés les uns aux autres. Quiconque parmi vous les prendra comme affiliés sera des leurs. » Verset 76. « Ceux qui sont impies ont certes dit Allah est le Messie, fils de Marie. À quiconque donne des associés à Allah, donc les chrétiens, le dogme de la Sainte Trinité, à quiconque donne des associés à Allah, Allah interdit le jardin. » Le jardin, c'est le paradis. Donc, « Ceux-là auront le feu comme refuge. » Verset 77. Impies ont été ceux qui ont dit Allah est le troisième d'une triade, condamnation du dogme de la Trinité. Il n'est de divinité qu'une divinité unique. S'ils ne cessent point leur dire, si vous voulez, ceux qui parmi eux sont impies seront touchés par un tourment cruel. Verset 89. Ceux qui auront été infidèles et auront traité nos signes de mensonges, ceux-là seront les hôtes de la fournaise. Voilà. Voilà les condamnations très précises portées contre le christianisme. Contre les chrétiens, qui sont voués à l'enfer, et qui sont voués probablement d'ailleurs, si l'on en juge par le premier verset que j'ai cité, à la mise à mort immédiate, par le Coran lui-même.
Je peux vous raconter une petite histoire ce matin. J'arrive à la gare et je vais dans la librairie où on vend les journaux, et je vois un livre qui vient de sortir, je crois que c'est Albin Michel, qui prétend recenser les atrocités commises par l'islam, par les islamistes, depuis une dizaine ou une vingtaine d'années. Et le titre de ce livre est absolument ahurissant, c'est « Au secours Mahomet, ils sont devenus fous ». Alors, quand on sait que c'est en référence à Mahomet et au Coran que ces crimes ont été commis, je trouve que ce titre est une imposture totale.
Eh bien, chers auditeurs, malheureusement, nous avons encore beaucoup de questions, mais nous ne pourrons pas les poser, parce que si nous les posions, nos invités ne pourraient pas y répondre. Donc, nous approchons de la fin. Alors, je voudrais quand même rappeler les titres des ouvrages de nos invités. De gauche à droite, M. Joachim Védiocas, « L'islamisation de la France », un très beau livre, et un très bon livre, édité chez Godefroy de Bouillon. Monsieur Laurent Lagartempe, donc il n'est pas ici, le Coran contre la République, les versets incompatibles. Madame Anne-Marie Delcambre, Soufi ou Moufti, quel avenir pour l'islam? Et M. René Marchand, son dernier livre, je ne l'ai pas sous les yeux.
Eh ben, c'était Mahomet contre enquête.
Et le précédent?
Le précédent s'appelle La France en danger d'islam, qui va être réédité.
Et avec un Jean-Noël Audibert a cité également le livre de d'Anne-Marie Delcambre, le précédent, L'islam des interdits. Alors je voudrais résumer, sous votre contrôle, chers amis, ce que nous avons dit. L'islam de France, peut-il y avoir un islam de France? Nous répondons non, vous êtes bien d'accord. Vous êtes d'accord, M. Vidocas? Il ne peut pas y avoir d'islam de France.
Non, d'accord.
Monsieur
il ne peut pas y avoir d'islam de France.
Non, il ne peut pas.
Non. Bon, et Marie-François, vous êtes convaincue?
Oui.
Mais Marie-François, vous êtes convaincue. Non, mais attendez, vous avez le droit, ici c'est la liberté, vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord. Bon. Donc il ne peut pas y avoir d'islam. Il y a malheureusement un islam en France, il ne peut pas y avoir d'islam de France, parce que l'islam est un tout à la fois religion et politique. Jules Monod disait, le communisme, c'est l'islam du XXe siècle. La question est de savoir si l'islam ne sera pas le communisme du XXIe siècle. Donc il faut comparer l'islam au communisme. L'islam est plus qu'une religion, c'est un tout politique et religieux. On nous désinforme à ce sujet. Les musulmans pratiquent la dissimulation qu'ils appellent la taqiyya. Mais heureusement, il y a de bons livres comme ceux que nous avons cités, celui de, par exemple d'Anne-Marie Delcambre, qui montre la vérité en citant les ouvrages. L'islam peut-il évoluer? Il ne peut pas évoluer en restant l'islam. Il y a par exemple eu dans l'histoire de l'islam, l'islam des Bahaïs. Ben, les Bahaïs sont considérés comme des non-musulmans, ils sont chassés de la communauté. Il y a la condamnation de l'apostasie dont parle dans son livre très bien Anne-Marie Delcambre. Un apostat, celui qui aime, qui veut réformer l'islam, est considéré comme apostat et condamné à mort.
L'innovation.
Et condamné à mort. Et depuis, non pas le 11e siècle, mais bien avant, ça remonte au 9e siècle, on a fermé les portes de l'ijtihad, c'est-à-dire les portes de l'interprétation.
Oui.
Donc toute remise en cause de la charia, de la loi islamique, qui est à la fois loi civile, loi religieuse, loi pénale, est considérée comme une apostasie. Et donc vous, le musulman qui se livre à cet exercice, au risque d'être mis à mort. Cela veut dire simplement que ceux qui le font apparemment, le font pour tromper les braves crétins de chrétiens que nous sommes, et pour leur faire croire que l'islam n'est pas ce qu'il est. Mais heureusement, chers auditeurs, vous avez compris, vous avez écouté Joachim Vedioccas, René Marchand, Anne-Marie Delcambre, vous lirez leurs livres et vous serez convaincus que lorsque M. Sarkozy vous dit qu'il va y avoir... qu'il peut y avoir l'islam de France, et lorsqu'il s'en réjouit, c'est se moquer du monde et de se moquer de ces de pauvres électeurs qui naïvement ont voulu lui faire confiance. Marie-Françoise, vous avez peut-être des réunions à annoncer. Non, malheureusement, nous n'avons pas le temps de lire les messages. J'en suis désolé, je demande aux auditeurs de me pardonner, mais il y en a trop eu, enfin, je n'en ai jamais trop, mais...
Alors, la 16e fête du livre de Renaissance catholique aura lieu le dimanche 2 décembre 2007 de 10h30 à 18h30 à Grand Maison, à Villepreux, avec donc des conférences de Rémi Fontaine, François Foucard, Jean Madiran et un hommage de Serge de Bekech. Et le congrès de Laissez-les vivre, SOS Future Mère, se déroulera comme convenu le samedi 1er décembre de 10h à 18h30 à la Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique, dans le 7e arrondissement.
Eh bien, merci donc, chers invités. Vous n'avez pas pu dire tout ce que vous vouliez dire. Jean-Noël Audibert, vous avez encore un mot pour à nos amis auditeurs?
Mais je regrette que cette émission ait été aussi courte. Je pense que nous aurions pu en parler pendant 3 heures. Il aurait été aussi souhaitable d'aborder les problèmes des droits de l'homme vis-à-vis de l'islam.
De parler des conditions pratiques de l'islamisation de la France, c'est-à-dire des mauvais maires qui participent par leur action, comme M. Pinte, à cette islamisation. Voilà. Merci Mme Delcambre, merci Jean-Noël Audibert, merci René Marchand, merci Joachim Vidocas.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.